La Causerie Sud Radio.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis dans la Causerie Sud Radio, votre podcast évidemment pour analyser, préparer le week-end rugby qui s'annonce sur Sud Radio, la radio du rugby, dès samedi 15h pour vous faire vivre cette dernière journée du tournoi des Six Nations. Et je suis avec Quentin Barbaza, Marius Louis-François, bonjour messieurs.
Salut Cyprien, salut tout le monde.
Salut les gars.
J'espère que vous avez chauffé les épaules pour ce week-end parce que il s'annonce épais ce dernier
tournoi. Croquet de l'anglais ce week-end.
Ah là là, ça va taper fort dans le dernier tournoi, la dernière journée du tournoi des Six Nations. Et c'est tout de suite dans la Causerie.
La Causerie Sud Radio.
Donc messieurs, ça commence dès 15h10 avec Irlande-Écosse. C'est simple, le vainqueur de ce match-là prendra une option pour la victoire finale. Ensuite, il y aura à 17h40 un Pays de Galles-Italie. Et enfin, peut-être le match le plus attendu, celui qui devait être la finale, soi-disant, des deux grands chelems possibles pour les Anglais et les Français. France-Angleterre au Stade de France, dès 21h10 le match. Et dès 20h avec Alexandre Priam, François Triot et Daniel Herrero. Quentin Barbaza, tu vas me redonner les compositions, notamment la composition anglaise. C'est simple, ils ont eu une défaite historique en Angleterre, et bien Steve Borthwick a décidé de rien changer.
Rien changer, pourtant d'habitude on change une équipe qui gagne, mais là ils ont perdu, mais on n'en change pas une équipe qui perd non plus. Ellis Genge, Jamie George et Hayes en première ligne, seconde ligne Maroi Todje et Coles, troisième ligne Chesom, Earl et Pepper, à la charnière Spencer et Finn Smith, aux ailes Murley et Roebuck, au centre Hankinson et Freeman, et à l'arrière Elliot Daly. Et quand on regarde les Français, Jean-Baptiste Gros à gauche, Julien Marchand au talon, Dorian Aldeguerri à droite, la deuxième ligne 100% toulousaine entre avec Thibaut Flamand et Emmanuel Méafou, la troisième ligne François Cross, première sélection pour Thémo Mathieu et Charles Olivon au centre de la troisième ligne, la charnière Antoine Dupont et Mathieu Jalibert, aux ailes Biel Biarré à Tissogbé, au centre Moefana Barassi, à l'arrière Thomas Ramos.
Ouais, exactement, il y a pas mal de changements côté Français, contraints notamment par certaines blessures, Anthony Gelon, la suspension d'Oscar Jégou et puis des choix également, on va en parler dans un instant. Tout d'abord, messieurs, pour commencer ce podcast, quand on vous dit crunch, quand on vous dit France-Angleterre, Marius, qu'est-ce qui te vient en premier ?
Moi, il me revient la débâcle des Anglais il y a 2 ou 3 ans, je crois, à
Twickenham,
où on les avait bien boostés. Et voilà, moi, c'est la première chose qui me revient. Si, après, j'ai aussi un souvenir d'un essai de Wesley Fofana de folie dans un crunch de folie il y a quelques années. Enfin, en gros, de toute façon, c'est toujours des souvenirs assez fous, des matchs toujours intéressants. Il peut tout se passer dans ce genre de match, peu importe l'état de forme des deux équipes, que ce soit la France quand ça allait moins bien ou l'Angleterre là actuellement qui est pas au top du top. Donc voilà, ça risque d'être un super match. Il risque d'y avoir du rififi dans les chaumières.
Comment on explique que ce match est si particulier, si à part, Quentin ?
Parce que ça fait 120 ans qu'on les affronte et 120 ans que c'est nos rivaux premiers. Même plus que ça, quand on s'en rend dehors du sportif, on a toujours là. C'est nos meilleurs ennemis, les meilleurs ennemis, comme on dit. On a toujours envie de croquer de l'anglais, peu importe où, peu importe quand. Et puis c'est toujours un match à part. Moi, je me rappelle encore de ce match où à la dernière seconde, Gaël Ficou qui fait une relance, une feinte de passe qui va plonger dans l'embute pour la victoire au Stade de France il y a quelques années. Non, c'est toujours des sentiments à part quand on joue les Anglais. Bon, là, on les joue pas pour le Grand Chelem, c'est dommage. Ça aurait amené encore un peu plus de contexte à ce match toujours particulier, mais France-Angleterre toujours à part.
120 ans avec un maillot collectif qu'on a vu et qui s'est évidemment arraché par tous les fans de rugby et de mode, comme toi Marius, je n'en ai aucun doute. Donc on aurait dû jouer le Grand Chelem potentiellement, mais il y a eu défaite en Écosse 50-40. Au début du tournoi Destination, on disait que la France et l'Angleterre étaient les favoris. Les Anglais restaient sur une série de 11 victoires de suite, notamment contre la France l'année dernière, mais également contre la Nouvelle-Zélande en novembre dernier. La France, elle, était dans une dynamique compliquée après les tests de novembre, mais on sentait que c'était un calendrier favorable, avec 3 réceptions au Stade de France, enfin en France, une à Lille et 2 au Stade de France. Néanmoins, les deux ne joueront pas le Grand Chelem, et surtout, les Anglais ont connu 3 défaites de suite dans ce tournoi, Écosse, Irlande, Italie. Comment on juge ces Anglais, Marius ? Est-ce que ces Anglais ont... En vrai, c'est peut-être pas si fort que ça, on va leur rouler dessus, ou alors, méfiat, les Anglais, ça reste toujours les Anglais, et s'ils peuvent nous faire tomber, ils nous feront tomber.
Ouais, non, il faut se méfier. Comme je le disais lundi, j'ai l'impression que l'Angleterre, c'est une bête blessée. Il faut toujours se méfier d'une bête blessée, surtout... Bah surtout qu'elle va jouer contre, comme l'a dit Quentin, son meilleur ennemi, en l'occurrence la France. Après, moi si je reviens sur ça, les Anglais ils ont eu entre guillemets une chance de pas, ils ont pas affronté l'Afrique du Sud quoi. Je pense que si on avait échangé nos tournées, la France aurait eu aucun problème sur la tournée de novembre et l'Angleterre aurait certainement perdu contre l'Afrique du Sud.
On aurait battu la Nouvelle-Zélande selon toi ?
Ouais. Oui. Il y avait que l'Afrique du Sud où on passe un peu à côté, mais enfin dans tous les cas c'est un rouleau compresseur, c'est la meilleure équipe au monde, donc voilà, il y avait rien à dire. Mais ouais, moi je suis pas si inquiet. Il y a évidemment cette défaite contre l'Afrique du Sud, là la défaite contre l'Écosse, mais les Anglais, voilà, là ils ont, bah ouais, force est de constater. Alors je sais pas si c'est la même histoire que les Irlandais et que les Gallois sur le trou générationnel,
mais là je pense que c'est juste un passage à vide.
Ouais, c'est
un passage à vide un peu qui arrive, qu'ils n'étaient pas trop attendus. Ils se cherchent aussi au poste de 10. On a vu George Ford commencer le tournoi, Finn Smith qui le reprend un peu, Marcus Smith qu'on sait pas trop s'il joue arrière.
Finn Smith qui était à la base titulaire au dernier tournoi, c'est George Ford qui a gagné sa place durant la tournée d'été alors que Finn Smith était avec les Lions britanniques. George Ford a profité pour récupérer une place et surtout il y a une série qui s'est mise en place. Je pense que ça aussi Steve Borthwick, ouais, le sélectionneur a voulu garder cette continuité. Néanmoins ils ont modifié, donc tu le disais, le poste de demi d'ouverture. Mais comment vont réagir les Anglais qui sont inclinés pour la première fois de leur vie contre les Italiens, et comment vont réagir les Français après? Ils en ont mis 40, mais ils ont quand même pris 50 points en Écosse. Est-ce que là c'est bon, c'est digéré et on joue la victoire et on va aller la chercher? Comment tu sens le match toi?
Je pense qu'il y a un changement d'objectif clair dans les têtes. Maintenant je pense qu'ils ont tous exit le grand chelem. Là maintenant on joue vraiment la victoire dans le tournoi, parce que si on perd, peu importe le score, peu importe la manière, s'il y a défaite, bah il y a pas de tournoi quoi qu'il arrive, il y a pas de victoire dans le tournoi. Donc non, il faut gagner ce match. Je pense que là ils ont été piqués au vif à Édimbourg. Ils ont fait une grosse semaine de travail. Ils savent contre qui ils vont tomber, contre les Anglais. Faut jamais les sous-estimer, comme tu l'as dit, Marius. C'est une bête blessée. Il y a toujours une grosse troisième ligne. C'est presque la meilleure équipe, le meilleur pays en Europe sur les huitièmes de finale en Coupe d'Europe. C'est eux qui ont le plus de clubs représentés. Donc c'est quand même un championnat toujours quand même performant. La première chip, non, faut pas les sous-estimer. C'est pas parce qu'ils sont cinquièmes qu'ils vont pas venir faire un coup. Ils ont envie que de ça, justement, de pas finir dernier du tournoi. Donc ce match, je sens que ça va être très serré, même si
dernier, parce qu'il y a quand même les Gallois qui resteront dernier quoi qu'il arrive.
Ben non, si les Gallois s'imposent contre les Italiens avec le bonus, c'est que les Anglais peuvent terminer 6e du tournoi.
Ah, ils peuvent terminer 6e du tournoi avec. Mais non, je crois que le goal average est trop compliqué pour eux.
Sortir les calculettes.
Mais je crois qu'il y a trop de retard pour les Gallois. En tout cas, c'est sûr que c'est, quoi qu'il arrive, ce sera le pire tournoi qu'ils n'ont jamais connu. Un tournoi avec 4 défaites, si jamais il y a défaite contre les Français. Marius, ce match, il va se jouer où? On sait que les Anglais, au vu de leur composition, Quentin l'a dit tout à l'heure, Oli Chisholm, habituel deuxième ligne qui glisse en troisième ligne, il l'a déjà fait, mais ça montre aussi, comme ont fait les Écossais, une densité dans cette troisième ligne-là. Ils vont vouloir nous casser la gueule et jouer au pied, sachant qu'en plus, actuellement, il pleut sur Paris, il risque de pleuvoir demain également sur Paris toute la journée, peut-être demain soir. Le jeu aérien qui n'a pas été notre fort en Écosse, il va vite falloir qu'on corrige et qu'on rectifie ça.
Qu'on rectifie ça, c'est sûr. Après, moi, je pense que c'est devant. Pour moi, en Écosse, on s'est fait manger devant, clairement. Et donc, devant, il va falloir être très costaud, parce qu'on a vu que, comme t'as dit, il y a chez Somme qui passe en troisième ligne. Il y a un gros pack devant. Si je me trompe pas, bien que la mêlée italienne soit très très bonne depuis le début de ce Six Nations, je crois que la meilleure mêlée, c'est l'anglaise.
C'est les Anglais. Ils ont pris l'ascendant sur la mêlée italienne, notamment la semaine dernière, malgré leur défaite.
Donc voilà, pour moi, ça va être devant, mais comme de toute façon, quasiment tout le rugby moderne aujourd'hui, ça va se jouer devant. Et donc, effectivement, les ballons, il va falloir faire attention. Va falloir, mais bon, de toute façon, on a ce problème de ballon haut, on le sait. Moi, vraiment, il va falloir les fracasser devant. Et puis, une fois qu'on aura des libérations propres, un jeu léché, un jeu clean, là, la charnière pourra à nouveau se mettre en avant et jouer correctement. Ce qui a énormément pêché contre les Écossais, c'est qu'il y avait très peu de libérations propres. Et donc, Dupont et Jalibert n'étaient pas dans un fauteuil. Et des fois, ils arrivent quand même à s'en sortir. Là, même pas. Voilà, là, il faut qu'ils soient dans un fauteuil. Il faut vraiment que devant, ça envoie du steak, quoi.
Pour toi, Quentin, ça va se jouer où, ce match? Est-ce que les Français ont... Alors, évidemment, on est favoris au vu de nos dernières performances, parce que même si il y a eu des fêtes en Écosse, on reste sur des bons matchs. Ça va se jouer où? J'ai l'impression que cette ligne de trois quarts anglaise semble plus faible que la nôtre, très nettement. Je suppose aussi qu'un Antoine Dupont piqué, comme il a été piqué en Écosse, là, il a envie de remettre, montrer que c'est lui le patron et de remettre un peu les pendules à l'heure.
Ah, bien sûr, Antoine Dupont, je pense qu'il a fait l'un de ses pires matchs la semaine dernière depuis qu'il est, il a enfilé le maillot bleu.
Il l'a reconnu lui-même.
Ouais, voilà, donc je pense que là, il a envie de montrer que c'est lui l'un des meilleurs joueurs du monde, lui le meilleur demi-mêlée du monde. Donc, il a envie de retourner, d'avoir ses rucks en moins de 3 secondes, d'éjecter la balle le plus vite possible sur cette ligne de 3 quarts. Mais après, moi, je suis un peu sceptique cette ligne de 3 quarts. Moyoram Moefana, qui a du mal un peu à revenir à son meilleur niveau. Il a pas fait un super match à Pau avec l'UBB quand il est revenu. La semaine dernière, on peut pas dire que c'était son meilleur match non plus. Donc là, il va être aligné à Pierre-Louis Barassi. C'est un peu expérimental comme ligne de 3 quarts. Comme paire de centre, il va falloir en face, il y a du Tommy Freeman ou du Atkinson qui ont plus d'automatisme. Freeman, il a joué quasiment tout ce tournoi au centre, il me semble.
Donc, il a fait une titularisation à l'aile, okay. Il me semble, contre l'Écosse ou l'Irlande.
Ah oui, ouais, mais de toute façon,
sinon, il est centre et il joue de plus en plus centre, même avec Northampton, son club
C'est peut-être aussi là plus d'automatisme chez les Anglais, donc à voir. Et puis, s'il y a pas, comme tu l'as dit, Marius, s'il n'y a pas de ballon propre devant, il n'y aura pas de ballon propre derrière. Donc, c'est là la clé du match, ça marche toujours devant. On sait qu'il va changer la troisième ligne, voir comment Théo Mathieu s'adapte aussi au poste de troisième ligne, alors que lui, il joue 8 d'habitude. Il y a des changements, c'est un peu l'ADN de Galtier, ça a changé un peu tout comme ça.
Ouais, c'est ça. Il y a plein de mystères, moi, dans cette compo que j'ai du mal.
Justement, on va parler de la compo. Il y a eu des choix forts faits par Fabien Galtier, notamment la première de Théo Mathieu. On attendait peut-être un Lenny Nouchi qui avait fait 4 matchs, qui est hors groupe et qui a sûrement payé son entrée contre l'Écosse. Est-ce que on comprend le choix de Théo Mathieu à la place de Lenny Nouchi? Est-ce qu'on comprend le fait qu'Olivon soit 8 alors que c'est plutôt un troisième miel de base? Est-ce qu'on comprend que ce soit peut-être Moefana Barassi? À noter que Fabien Broboiri pas suffisamment remis au niveau de son doigt, plutôt qu'un Gailleton. Est-ce que c'est Gailleton sur le banc plutôt qu'un Gourgue qui n'aura fait du coup qu'une feuille de match sur ce tournoi? Ces mystères-là, Marius, comment tu les interprètes?
Il y a eu plusieurs choix forts, des choix même assez étranges, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi personnellement, sur Mathieu, je suis très content parce que ça fait.
Ouais, mais je comprends pas son placement.
Je veux le voir.
En fait.
Par contre, voilà,
j'ai aucun argument qui explique ce positionnement en troisième ligne. Je ne sais pas pourquoi il est là.
Je suis exactement d'accord.
Vous l'aurez mis en 8 et Olivon en 7.
Bien sûr.
Mais même moi, j'aurais mis Olivon, avoir Olivon titulaire en deuxième ligne ou sur le banc, peu importe, mais j'aurais sorti Oradou. Et puis surtout, je ne comprends pas ce choix sur Nouchi. J'ai l'impression que des fois, Fabien Galtier, il prend des décisions
paye.
Comme ça.
Non, mais
c'est lui qui paye. Mais, et Moefana, il peut pas payer non plus.
Mais en vrai, si tu regardes le match de Nouchi,
il fait une mauvaise entrée.
Il se trompe sur les essais de Ben White, il circule trop vite. C'est lui qui est hors jeu également sur la dernière pénalité de Finn Russell. Il prend un carton jaune. Je dis pas que c'est le seul, mais je te dis juste que je pense que c'est ce qu'a expliqué Fabien Galtier en conférence de presse. Il a dit c'est un choix. Il a eu la chance. Même il a dit, il a eu la chance de jouer 4 matchs avec nous. Là, on a fait des choix, sous-entendu. Il n'a pas été au rendez-vous sur le dernier match. On a envie de voir d'autres. Théo Mathieu monte.
Voilà. Ouais, moi, je suis pas d'accord avec ça.
Tu as le droit, mais je te dis juste.
Il y a des fois
l'explication qu'a avancé.
Mais des fois, Fabien Galtier fait des choix comme ça. J'ai l'impression qu'il y a des mecs peut-être qui les sent moins ou j'en sais rien. Mais c'est à peu près la même chose que quand il avait à l'époque sorti Jalibert. Il a fini par le reprendre, mais longtemps après, on avait l'impression que Jalibert allait payer toute sa carrière, ce quart de finale face au Sud-Af. Oui, alors que c'était pas le pire.
Quand il prend quelqu'un en grippe,
C'est ça. Mais ce qui peut m'arriver aussi.
Il avait aussi payé Jalibert. Je me rappelle ce match l'an dernier à Twickenham où pourtant j'ai l'impression que c'était lui qui avait pris toute la misère du monde sur le dos, alors que quand il sort du terrain, la France est devant et après on perd 26-25. Alors que c'était un peu la tête de Turc facile. Là, peut-être que Lenny Nouchi, ce sera aussi ce cas-là à voir. Après, peut-être que Théo Mathieu, il va se révéler au poste de 7 et qu'il va rouler sur 3 Anglais. Et puis voilà. Donc, on dira bravo, monsieur Galtier.
Et s'il peut rouler sur Pollock.
Ouais, mais ce qui me dérange, c'est qu'on dirait qu'il y a 2 poids, 2 mesures, en fait. Parce que si tu prends la Nouchi, il fait une très mauvaise entrée. Mais Moefana, il fait un très mauvais match du début jusqu'à la fin.
Quoi. Là, t'as pas les mêmes choix derrière pour le remplacer. Fabien Broboiri qui est forfait.
Tu peux mettre du Gourgue.
Un 12 solide, t'as quand même que Moefana et Broboiri qui sont.
Il tente une Mathieu qui a jamais joué en équipe de France pour un match pareil. il peut tenter. Gourg, il est en forme en club. Je pense que. En fait, on a l'impression qu'il tente des trucs, puis d'autres non. Je sais pas, dans la recherche de nouvelles choses, il va des fois plus loin que je pense un Gourg titulaire sur ce match-là.
Réponse en tout cas samedi à 21h10, le coup d'envoi, dès 20h sur Sud Radio, la radio du rugby, et dès 15h même pour vous faire vivre cette dernière journée du tournoi Destination, puisque c'est simple. Actuellement, la France est en tête du tournoi avec 16 points, tout comme l'Écosse, 16 points. Meilleur goal average global des Français face à l'Écosse. Troisième, l'Irlande, 14 points. Et donc, ce sera un Irlande-Écosse dès 15h à vivre sur Sud Radio, la radio du rugby, avec également Antoine Gibert, qui sera notre consultant, le demi-de-mêlée, demi-d'ouverture du Racing 92, qui nous fait le plaisir de venir commenter ce match. Irlande-Écosse, messieurs, il va falloir se mouiller. Qui va s'imposer? Qui va prendre un avantage sur le tournoi? Sachant que, donc, la France connaîtra le résultat d'Irlande-Écosse, et en fonction du résultat, la France devra faire mieux. Elle a son destin entre ses mains, mais elle va devoir quand même faire en fonction des autres. D'accord. Si l'Écosse gagne avec bonus offensif, la France devra s'imposer obligatoirement avec un bonus offensif. S'il n'y a pas de bonus pour l'Écosse, peu importe, la France doit s'imposer. Et en revanche, si l'Irlande s'impose, il va falloir s'imposer pour la France simplement. Donc voilà. Donc ça va être à regarder, ça va être un match ultra intéressant. C'est en Irlande. Marius, Irlande-Écosse. Quelle est ta vision sur ce match-là?
Moi, j'adorerais voir les Écossais rejouer de la même manière que la semaine dernière et s'imposer en Irlande. Je ne sais pas combien de temps ça fait qu'ils ne se sont pas imposés en Irlande, mais ça doit faire un bon petit bail. Si je devais jouer dessus, moi je mettrais Irlande parce que l'Écosse, on le sait, comme je disais, fait des très bons matchs une fois tous les 5 ans, ils sont assez irréguliers.
Ouais, ce que j'allais dire. D'autant plus à l'extérieur, c'est pas fameux. À l'extérieur, ils ont fait un match pas loin d'être catastrophique au Pays de Galles, où ils arrivent à s'en sortir, on sait pas trop comment. Puis ils ont perdu en Italie sous des trompes d'eau. À l'extérieur, les Écossais, c'est deux poids deux mesures en fait. On n'arrive pas trop à les jauger sur ce tournoi, comme on n'arrive pas trop à jouer non plus les Irlandais, qui vont faire un super match à Twickenham et qui défoncent les Anglais. Et puis la semaine dernière, qui ont du mal à battre les Gallois, enfin qui font le strict minimum. Donc c'est vraiment un match où deux équipes difficiles à jouer. Je pense que ça va être ultra serré. Mais comme tu l'as dit, Marius, moi j'aimerais bien voir les Écossais faire un petit exploit parce qu'ils le méritent. C'est une équipe qu'on aime bien, supporter.
Exactement.
Sachant que les deux équipes donc sont en course pour gagner le tournoi, mais sont en course également pour faire la triple couronne, c'est-à-dire s'imposer face aux autres nations britanniques, donc Pays de Galles, Angleterre, Écosse pour l'Irlande, et Pays de Galles, Angleterre, Irlande pour l'Écosse. Rendez-vous donc 15h sur Sud Radio, la radio du rugby. Et ensuite, il y aura un dernier match. Celui-là, il compte un peu moins, évidemment, parce que les Gallois sont plus en peine. Les Italiens, eux, ne pourront pas aller chercher une victoire dans ce tournoi. Néanmoins, ils peuvent aller chercher un troisième succès, ce qui serait également historique pour eux. Ouais. Après un succès donc initial contre l'Écosse, un succès également contre l'Angleterre, ils peuvent s'offrir le Pays de Galles. C'est au Pays de Galles, mais les Gallois, eux, semblent un peu se rebiffer ces dernières semaines. Montent en puissance. Est-ce que les Gallois peuvent aller sauver l'honneur avec une victoire, ou est-ce que les Italiens vont finir par leur mettre la tête sous l'eau?
Non, moi je vois l'Italie faire un tournoi historique, comme on le dit. Ouais, les Italiens, et en fait l'Italie est forte maintenant. On peut le dire clairement. On peut le dire, l'Italie c'est fort, l'Italie ça fait peur, l'Italie ça joue bien devant comme derrière, et l'Italie ça ne craque plus à la 60e. Donc voilà. Après, le Pays de Galles est en train de se redonner de la confiance, si je puis dire. Surtout devant, où ça plaque en pagaille, du plaquage en voiture, voilà. À l'image de Mann, là, qui avait fait les 32 plaquages lors du dernier match. Mais je pense que l'Italie va s'imposer. Et puis ça, ce n'est que de bon augure pour le rugby italien sur le futur, je pense.
Quentin, même vision, les Italiens.
Je vais prendre le contre-pied, parce que j'ai l'impression que les Gallois, ils ont un peu tout misé sur ce tournoi, sur ce dernier match, justement. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient malheureusement pas rivaliser avec tout le monde. Être en difficulté, voilà. Et qu'ils allaient sans doute avoir leur victoire possible à la maison contre les Italiens au dernier match. Et on a vu, comme je te l'ai dit, Cyprien, une montée en puissance des Gallois petit à petit au fil de ce tournoi. Ils n'ont pas été loin de faire tomber l'Écosse, pas loin d'aller faire un coup en Irlande. Et puis là, ils arrivent sur un match, je pense, peut-être à leur portée, qui peut enfin leur remettre un peu la tête hors de l'eau et après filer vers la Coupe du Monde où ils devront lutter pour essayer de se requalifier. Mais en tout cas, les Gallois, non, je les sens bien sur ce match. On commence à revoir du rugby du côté des Rouges.
Bon, donc du coup, Pays de Galles pour Quentin, Italie pour Marius, vous voyez tous les deux l'Écosse, et pour le France-Angleterre, messieurs, rapidement, est-ce que vous voyez les Français gagner ce tournoi, ou est-ce que vous voyez les Anglais nous priver d'un tournoi?
Non, la France qui gagne, je pense même qu'on va les étrier, les Anglais.
Allez, pas de demi-mesure pour Marius.
Non, moi non plus, pas de demi-mesure. Et puis ça me ferait mal de voir les Anglais soulever, enfin, venir nous priver comme ça, chez nous, chez nous à Saint-Denis, sur notre pelouse.
Donc, c'est sûr. Rapidement, sur les compositions françaises, un joueur que vous allez particulièrement observer peut-être pour ce match-là, est-ce que...
Mathieu, moi,
je pense. On peut pas passer à côté. Mathieu, Mathieu, sa première, un crunch, placer un poste qu'il affectionne peut-être pas. On va voir comment il s'en sort. Et puis, non, c'est ce match, Thémo Mathieu, il mérite, il fait une super saison avec l'UBB, donc Thémo Mathieu.
À noter que l'ennemi Mathieu, son père, qui avait été international dans deux sélections au début des années 2000, avait connu une première sélection également en Angleterre contre les Anglais, avec notamment Fabien Galthié comme coéquipier. Comme quoi, l'histoire est belle pour Thémo Mathieu, ce troisième ligne venu de Biarritz et à l'UBB depuis deux saisons. Messieurs, je vous rappelle rapidement le programme de ce week-end, riche évidemment sur Sud Radio, la radio du rugby, puisque dès 15h, nous vivrons avec Marius Lefrançois, moi-même et également Antoine Gibert, on va vous faire vivre Irlande-Écosse, le match à ne pas manquer, évidemment en début d'après-midi. Ensuite, vous retrouverez évidemment Daniel Herrero pour une radio libre qui est ce soir dès 20h, 21h et rediffusée demain. Et dès 20h, Alexandre Priam prendra les commandes de Sud Radio pour vous faire vivre le crunch France-Angleterre au Stade de France avec Daniel Herrero, François Triot et toute l'équipe rugby pour aller se diriger vers une victoire dans le tournoi. Le temps pour moi de vous rappeler également que bien pour sur Sud Radio, on peut vous faire vous parler rugby, vous faire vivre les matchs, mais également vous emmener au stade, puisque c'est le moment de jouer, gagner vos places pour la 20e journée du Top 14. Canal+ et Sud Radio vous offrent vos places pour le match USAP Toulon, coup d'envoi samedi 28 mars. Ce match, comme l'ensemble des matchs du Top 14 et de la Pro D2, sont à suivre en intégralité et en direct sur les chaînes du groupe Canal+ et à suivre sur Sud Radio. Envoyez dès maintenant rugby au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort. Bonne chance à toutes et tous. Rugby au 7 20 18. Merci Quentin Barbaza.
Avec grand plaisir.
Merci Marius Lefrançois. On vous retrouve dimanche pour débriefer ce tournoi et cette victoire française, évidemment. Et cocorico d'ici là sur Sud Radio.